Vous écoutez, on lit pour vous.
Pas de parité au cours du siècle actuel, selon un rapport, un texte d'Hélène Barry, paru le 5 mars 2024 dans la presse. Malgré les progrès accomplis, l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde des affaires n'est pas pour demain, et pas même pour ce siècle, constate un rapport de la Chambre de commerce du Canada, publié fin février 2024. La mauvaise nouvelle, c'est que le Canada est en retard sur la moitié des pays membres de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, qui regroupe les pays les mieux nantis pour la proportion de femmes dans des postes de direction. La bonne nouvelle, c'est que le Québec est, avec les provinces atlantiques, une province où les femmes sont le plus représentées dans les professions de gestion. Les femmes comptent pour 48 % de la main-d'œuvre totale, mais n'occupent que 35 % des postes de direction. Si les tendances actuelles persistent, la parité à l'échelle nationale ne sera pas atteinte au cours du siècle actuel, affirme le rapport intitulé « Des avancées timides, la lenteur des progrès pour les femmes dans le monde des affaires et de l'entrepreneuriat ». Écart de rémunération. L'étude montre aussi que les écarts de rémunération persistent entre les hommes et les femmes d'affaires. Même si les salaires des femmes ont augmenté plus rapidement que ceux des hommes au cours des dernières années, les femmes gagnent moins que les hommes en 2023, soit 88 cents par dollar de salaire versé aux hommes dans les postes de gestion au Canada. Encore là, le Québec fait bonne figure. Les femmes québécoises se rapprochent de la parité salariale dans les postes de gestion avec 95 cents par dollar, tandis que les femmes de l'Alberta sont celles qui ont le plus de rattrapage à faire. Les femmes restent sous-représentées parmi les propriétaires d'entreprises, constate aussi Marwa Abdou, auteure principale du rapport et directrice principale de la recherche au laboratoire de données sur les entreprises de la Chambre de commerce du Canada. Les femmes au Canada ne sont pas confrontées à un seul plafond de verre, mais à plusieurs. Et pas à un seul échelon brisé dans l'échelle de promotion, mais à des multitudes, ce qui freine leur ascension vers une véritable égalité, a-t-elle résumé dans un communiqué. Dans les conseils d'administration, les progrès des femmes sont lents, et la parité est encore loin. La proportion de femmes dans les conseils d'administration est passée de 18 % à 21 % au Canada entre 2016 et 2020, relève l'étude. En 2022, cette proportion était encore de 21 % en moyenne. Le Québec, avec 21 % de présence féminine dans les conseils d'administration d'entreprises, tous secteurs confondus, égale la moyenne canadienne, mais l'Ontario fait mieux avec 23 %. C'était « Pas de parité au cours du siècle actuel » selon un rapport, un texte d'Hélène Barry, paru le 5 mars 2024 dans la presse.
De la science en français, s'il vous plaît. Un texte de Philippe Mercure, paru le 26 mars 2024 dans La Presse. Au Québec, on se bat pour que le français soit présent sur les devantures de nos magasins, dans nos commerces et dans nos milieux de travail. On tient à l'entendre dans nos chansons, dans nos films, dans nos émissions de télé. On veut que les figures publiques le parlent. Un grand salut ici au patron d'Air Canada. Ces enjeux génèrent des débats, des lois, des interventions, souvent passionnées dans les médias. Il y a pourtant un domaine où peu de chemises se déchirent devant l'omniprésence de l'anglais, la science. Nous en sommes venus à considérer comme normal et inévitable, peut-être même souhaitable, que les chercheurs québécois s'informent et diffusent leur propre science en anglais. Il existe pourtant des irréductibles qui défendent la science en français. J'en ai rencontré au consortium Érudit. Érudit est une plateforme qui donne accès à plus de 300 revues scientifiques, dont la vaste majorité est en français ou bilingue. Les motivations de ces gens n'ont rien à voir avec le chauvinisme ou le repli sur soi. En sciences humaines et sociales, en particulier, les sujets d'études sont très proches de la société dans laquelle on vit. Et puisqu'on vit en français au Québec, si on veut parler de notre société, il faut idéalement que ça se fasse principalement en français, dit Tanja Niemann, directrice générale du consortium Érudit. Formée par l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal, Érudit se veut un peu le Netflix de la diffusion de la science québécoise et canadienne. La vitrine donne accès à plus de 200 000 articles scientifiques qui traitent autant d'archéologie et de cinéma que de génie, de droit ou de théâtre. En poussant les portes de l'Université de Montréal, où est niché le consortium, je m'attendais vaguement à tomber sur un petit bureau, peut-être un peu poussiéreux, d'où seraient gérées les opérations. J'ai été surpris par la taille des lieux et l'animation qui y règne. Dans un coin, des techniciens informatiques s'activent à mettre en forme des articles scientifiques pour que Google, par exemple, les affiche bien haut dans ses résultats de recherche. Ailleurs, des développeurs web planchent sur la maintenance du site. Comme on est consulté par des chercheurs et des étudiants, autant au Canada qu'en Inde et en France, le site doit être opérationnel 24 heures sur 24, me dit Gwendolyn Henry, responsable des communications d'Érudit. À ma grande surprise, il m'apprend que 75 % des consultations d'Érudit proviennent de l'extérieur du Canada. D'autres employés sont au téléphone pour faire la liaison avec les revues savantes qui fournissent le contenu scientifique. De 6 employés, il y a 10 ans, Érudit en compte aujourd'hui 38. Qui a dit que la science en français se meurt? Selon mes interlocuteurs, la pandémie a donné un grand essor à la diffusion multilingue de la science. Gwendolyn Henry me raconte comment le gouvernement chinois, qui encourageait les scientifiques de son pays à publier en anglais pour accroître leur rayonnement, s'est heurté à un mur lorsqu'il a réalisé que les médecins chinois ne pouvaient même pas comprendre les découvertes faites par leurs collègues sur la COVID et les mettre en pratique. Madame Niemann relève quant à elle toute l'absurdité qu'il y aurait d'effectuer des recherches sur l'histoire du Québec ou sur notre système d'éducation, par exemple, puis d'en publier les résultats en anglais. C'est une question de démocratisation de l'accès. Oui, ces articles sont écrits pour la communauté de recherche, mais les publications qui passent par Érudit sont aussi extrêmement téléchargées dans les cégeps, par exemple, illustre-t-elle. Gwendolyn Henry fait remarquer qu'un chercheur francophone s'exprimera toujours plus précisément dans sa langue maternelle. J'ajouterai que la compréhension des articles est aussi meilleure lorsque des francophones les lisent en français. M. Henry me pointe d'ailleurs un danger insidieux à confier la diffusion de la science uniquement à de grandes revues internationales anglophones. De façon bien naturelle, ces revues privilégient la publication de recherches qui résonnent auprès d'un large public, au détriment des questions plus locales. Le chercheur, pour publier, va donc naturellement s'intéresser aux États-Unis ou à des questions internationales. Tandis que la condition des Autochtones du Grand Montréal, par exemple, va être délaissée, illustre-t-il. Un autre cheval de bataille d'érudit est la découvrabilité. On sait qu'à moins de le chercher précisément, il est difficile de découvrir un nouveau chanteur francophone sur Spotify parce qu'il y est noyé dans une mer de contenu anglophone. Le même problème se pose pour les articles scientifiques. On regarde beaucoup ce qui se fait du côté culturel parce que ce sont les mêmes enjeux, dit d'ailleurs Gwendol Henry. Face aux grands éditeurs comme Elsevier ou Springer Nature, Érudit fait office de David contre Goliath. Convient Tanja Niemann. À l'Université de Montréal, pourtant, les revues publiées par Érudit sont plus téléchargées en moyenne que celles de tous les grands groupes internationaux. Le consortium Érudit n'est pas la seule organisation québécoise à défendre la science en français. Chaque année, l'ACFAS organise le plus gros congrès scientifique francophone au monde. Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, est aussi un grand promoteur de la science en français. Les fonds de recherche du Québec, qu'il dirige, soutiennent d'ailleurs Érudit. L'anglais est et restera la langue de diffusion privilégiée de la science. Mais Érudit montre qu'il y a un espace pour le contenu en français, et il faut l'encourager. Albert Einstein, après tout, a longtemps publié ses articles en allemand, y compris certains de ses plus marquants. Et ça ne les a pas précisément empêchés de rayonner et de bouleverser notre perception du monde. 5 revues réputées publiées en français par le consortium Érudit. Criminologie, fondée en 1968 par Denis Zabot, considéré comme le père de la criminologie au Québec. Meta, fondée en 1955, la plus ancienne revue de traductologie au monde. Le Naturaliste canadien, revue fondée en 1868 par l'abbé Léon Provencher. Revue d'études autochtones, qui a publié depuis 1971 des milliers d'articles sur les populations autochtones. Relations industrielles, fondée en 1945, la première revue au monde consacrée à ce champ d'études. C'était « De la science en français, s'il vous plaît », un texte de Philippe Mercure paru le 26 mars 2024 dans La Presse.
Prendre la politique au sérieux. Un texte de Maxime Penneau-Jobin paru le 29 février 2024 dans La Presse. Pour commencer cette chronique sur les démissions dans le monde municipal, je tiens à souligner que le phénomène est exactement le même en France. Depuis 2020, 13 000 élus municipaux français ont claqué la porte pour des raisons qui ressemblent à ce qui se vit chez nous. L'enjeu avec lequel nous sommes aux prises a des sources profondes. C'est du sérieux. Je vois 5 explications à cette tendance lourde. 4 ont souvent été abordées dans les médias, ce sont les explications les plus importantes, mais il y en a une 5e qu'il faut aussi mettre sur la table. Présentons brièvement les 4 premières avant d'insister sur la 5e. 1. Les médias sociaux et leur violence. Ce phénomène ne disparaîtra pas, il faut dompter la bête. Par exemple, rapporter les excès à la police et équiper les politiciens ainsi que les administrations publiques pour qu'ils puissent mieux vivre avec cette réalité tout en la combattant. Il y a urgence d'agir. Les médias sociaux causent beaucoup de souffrance. Je crois aussi, comme Catherine Fournier, qu'une certaine introspection s'impose au sein des médias traditionnels. Difficile de calmer le jeu quand la politique est couverte comme un match de hockey, sur le ton du spectacle. 2. Les villes sont devenues de vrais gouvernements de proximité, leurs tâches sont de plus en plus complexes, les occasions d'affrontements politiques de plus en plus nombreuses. Oui, les conseils municipaux sont devenus des parlements. La gouvernance municipale, elle, est restée au siècle passé, ce qui rend la vie politique beaucoup plus difficile qu'aux autres ordres de gouvernement. Lire ceci pour plus de détails. Qui est malade, le maire ou la démocratie municipale? 3. Les crises, climatiques et autres, se multiplient et les villes sont constamment au front. Cela laisse des traces chez les élus, ils doivent être mieux soutenus. Voir cette chronique écrite à la suite de la démission de la mairesse de Chapais, la souffrance du chef. 4. Les villes ont vu leurs responsabilités exploser. On leur demande de se mêler de tout, mais leur fiscalité reste la même. Résultat, les ressources à leur disposition ne correspondent plus aux défis qu'elles doivent relever. Pourquoi rester en politique si on n'a pas les moyens de réaliser les projets qui nous ont motivés à y entrer? 5e et dernière explication. On va m'accuser de manquer d'empathie, je crois avoir démontré que j'en ai, mais je l'affirme quand même. Certaines personnes démissionnent parce qu'elles n'ont pas pris la politique municipale au sérieux. D'abord, un rappel, j'ai été maire de Gatineau de 2013 à 2021. Cette expérience a bien sûr alimenté ma réflexion. On ne peut plus s'improviser maire. La ville de Terrebonne a un budget qui dépasse celui du ministère du Tourisme. Le budget et le nombre d'employés de la ville de Gatineau dépassent ceux d'au moins 7 ministères à Québec. Drummondville, comme toutes les municipalités, a un champ d'action plus vaste que celui de n'importe quel ministère. Les élus municipaux s'occupent de développement social, de gestion de crise, de développement économique, de culture, de sport, de loisirs, de logement, d'itinérance et, oui, de nid de poule, de canalisation et de parc à chiens. Toutes les municipalités, petites ou grandes, ont des budgets qui se comptent en millions. C'est beaucoup plus difficile d'être maire d'une grande ville que d'occuper le poste de bien des ministres. C'est beaucoup plus difficile d'être maire d'une très petite municipalité que d'être député. Corollaire, devenir maire sans avoir d'expérience politique, c'est possible, mais périlleux. Prendre la politique au sérieux, c'est aussi reconnaître quelle est l'institutionnalisation du conflit. On prend un conflit et, au lieu de le régler par la force, on le fait entrer dans un processus politique qui produit une décision. La politique est donc, par définition, un affrontement. Elle est toujours difficile, même quand tout le monde se comporte bien. Finalement, et c'est le plus important, prendre la politique au sérieux, c'est reconnaître qu'elle n'est ni une affaire de personnalité, ni un objectif de vie, ni un rêve personnel. C'est un outil pour aider sa communauté. Quand un élu fait campagne sur sa personnalité, il va de soi que, par la suite, il considère toute forme d'opposition comme une attaque personnelle. Quand un élu fait campagne non pas pour un programme, mais contre quelqu'un, le soir de la victoire est le seul soir intéressant. Après, c'est une épreuve. Toute politique qui se conjugue au « je » est stérile et risque de se retourner contre son auteur. Pour s'épanouir en politique, il faut porter une cause autre que la sienne propre. Quand on a préparé un programme sérieux et mobilisé notre communauté, quand notre vision d'avenir pour notre ville est construite et défendue par des citoyens engagés, nous ne sommes jamais seuls. Dès que les couteaux commencent à voler bas, des gens viennent à notre aide, car ils croient, eux aussi, aux idées que nous portons. Je le répète, les médias sociaux, la multiplication des crises, la gouvernance et la situation financière des villes expliquent, d'abord et avant tout, l'inquiétante croissance des démissions chez les élus. Mais un certain mépris de la politique en général et de la politique municipale en particulier fait aussi partie du problème. Chaque élu qui vit des difficultés n'est pas nécessairement victime d'un système. Il est parfois victime de son propre manque de respect pour les exigences minimales d'un engagement politique sérieux. C'était « Prendre la politique au sérieux », un texte de Maxime Penneau-Jobin paru le 29 février 2024 dans la presse.
Les travailleurs d'entrepôt disent peiner à se nourrir et à se loger. Un texte de Matt Day de Bloomberg paru le 16 mai 2024 dans la presse. 5 ans après qu'Amazon.com Inc. a augmenté leur salaire à 15 $ l'heure, la moitié des travailleurs des entrepôts interrogés par des chercheurs disent qu'ils ont du mal à se nourrir ou à se loger. L'étude nationale, publiée mercredi le 15 mai 2024 par le Center for Urban Economic Development de l'Université de l'Illinois à Chicago, a interrogé les employés américains sur leur bien-être économique, notamment en leur demandant s'ils avaient sauté des repas, s'ils avaient eu faim ou s'ils s'étaient inquiétés de ne pas pouvoir payer leur loyer ou leur hypothèque. Ainsi, 53% des personnes interrogées ont déclaré avoir connu une ou plusieurs formes d'insécurité alimentaire au cours des 3 mois précédents et 48% une ou plusieurs formes d'insécurité en matière de logement. Les chercheurs ont constaté que les travailleurs ayant déclaré avoir pris des congés non rémunérés après s'être blessés au travail étaient plus susceptibles de signaler des difficultés à payer leurs factures. Ce n'est pas nécessairement qu'Amazon soit une exception, a indiqué Sanjay Pinto, co-auteur de l'étude avec Beth Gutelius. Cependant, ils ne sont certainement pas en tête de file pour ce qui est de la création d'emplois permettant de subvenir aux besoins des familles. Amazon n'a pas immédiatement commenté le contenu des conclusions de l'enquête, mais a cité les critiques formulées par l'entreprise à l'encontre d'un récent rapport d'Oxfam sur la surveillance des lieux de travail qui s'appuyait sur les mêmes recherches. L'enquête ne pouvait pas prouver que les personnes interrogées travaillaient réellement pour Amazon, a déclaré l'entreprise, et sa durée signifiait probablement que seules les personnes ayant des expériences extrêmement négatives avaient pris le temps de répondre parmi d'autres critiques. Deuxième employeur du secteur privé aux États-Unis, Amazon est depuis longtemps critiquée pour le traitement qu'elle réserve à ses employés, en particulier ceux qui emballent et expédient des boîtes dans ces entrepôts. La plupart des critiques se sont concentrées sur les blessures qui ont dépassé le taux de ses homologues du secteur de la logistique. Amazon s'est engagée à rendre ses entrepôts plus sûrs, en partie en automatisant les aspects du travail qui nécessitent des mouvements répétitifs. Dans un rapport publié en octobre 2023, Pinto et Gutelius ont examiné les blessures dans les rangs d'Amazon avant de s'intéresser à la situation économique des travailleurs. L'entreprise, dont le siège est à Seattle, est le deuxième employeur du secteur privé aux États-Unis, derrière Walmart Inc. Selon les chercheurs, Amazon représente environ 29% de la main-d'œuvre du secteur de l'entreposage aux États-Unis. À ce titre, l'entreprise joue un rôle de premier plan dans la fixation des salaires et des conditions de travail d'un secteur transformé par le commerce électronique. L'enquête en ligne de 98 questions s'est adressée aux employés d'Amazon par l'entremise de publicités sur les réseaux sociaux en ciblant les entrepôts et les quartiers qui accueillent des installations de l'entreprise. Les chercheurs ont également procédé à des contrôles de qualité afin d'éliminer les réponses des personnes qui semblaient donner des réponses inauthentiques. Au total, 1484 travailleurs de 42 États ont fourni suffisamment d'informations pour être inclus dans les résultats. Pour les parties concernant la sécurité économique, la taille de l'échantillon a varié entre 1306 et 1472 répondants. La marge d'erreur est de plus ou moins 2,5 points de pourcentage. L'étude a été financée par la Fondation Ford, Oxfam America et le National Employment Law Project, une organisation à but non lucratif favorable à l'emploi. Une triste histoire. Un tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir eu recours à des programmes financés par le gouvernement, principalement des bons d'alimentation ou Medicaid, au cours des 3 derniers mois. Cela fait écho à une analyse réalisée en 2020 par le Government Accountability Office des États-Unis qui a révélé qu'Amazon était l'un des principaux employeurs de personnes bénéficiant d'une aide alimentaire dans 9 États ayant communiqué ces données. Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire formulée après la publication de l'enquête, tôt mercredi. En réponse à la publication du premier volet de l'enquête, un porte-parole de l'entreprise a rejeté le rapport, déclarant qu'il ne s'agissait pas d'une étude, mais d'un sondage réalisé sur les réseaux sociaux par des groupes ayant un parti pris. L'employé américain médian d'Amazon était payé 45 613 $ en 2023 contre 41 762 $ l'année précédente, a indiqué l'entreprise dans un document déposé le mois dernier. L'entreprise affirme que les employés des secteurs de l'entreposage et du transport sont payés plus de $20.50 l'heure en moyenne. L'enquête, qui a été menée entre avril et août 2023, exclut les cadres et les salaires sont un peu plus bas. La plupart des répondants ont déclaré des salaires compris entre 16 et 20 $ l'heure. L'enquête montre que 65% des travailleurs qui rejoignent Amazon gagnent plus que ce qu'ils gagnaient chez leur ancien employeur. Et le même pourcentage de travailleurs déclare avoir reçu une augmentation pendant qu'ils travaillaient pour l'entreprise. Il est plus difficile de gravir les échelons dans les entrepôts d'Amazon qui ressemblent à des chaînes de montage. Les données de l'enquête montrent que seuls 13% des travailleurs ont déclaré avoir bénéficié d'une promotion pendant leur séjour dans l'entreprise. Les personnes interrogées, qui ont rejoint Amazon en provenance d'une autre entreprise, étaient plus susceptibles d'avoir travaillé auparavant dans la préparation et les services alimentaires, la vente et la fabrication. L'histoire d'Amazon est celle, triste, de la baisse des attentes des travailleurs américains à l'égard de leur employeur, a déclaré M. Gutelius, co-auteur de l'étude et chercheur de longue date dans le domaine de la logistique et du travail en entrepôt. C'était « Les travailleurs d'entrepôt disent peiner à se nourrir et à se loger », un texte de Matt Day de Bloomberg, paru le 16 mai 2024 dans La Presse.